Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer donc sur l'Apocalypse. C'est votre troisième enseignement sur ce sujet.
Je vous
rappelle que c'est un enseignement qui va durer extrêmement longtemps.
Et
un enseignement, vous savez, ça se construit, c'est pas comme une prédication. Une prédication, vous avez un bon prédicateur qui vient, il vous prêche sur la guérison, il impose les mains aux gens, et après on retourne à la maison et on part avec sa guérison. Donc ça c'est l'effet de la prédication. L'enseignement ne fonctionne pas comme
ça.
L'enseignement fonctionne étape après étape. Ça se construit. C'est comme ça qu'on est construit dans le Seigneur. Vous savez, un jour, Dieu m'a montré une chose à propos du réveil ici. Je priais pour ça il y a quelques années. Le Seigneur m'a dit quelque chose d'important. Il m'a clairement montré que Dieu pourrait envoyer un réveil. Mais qu'il fallait d'abord que la connaissance de son peuple augmente. Parce que vous savez, quand Dieu vient avec puissance dans une nation, et qu'il y a une grande moisson, une bonne partie de la moisson est perdue lorsque le peuple de Dieu n'est pas d'abord enseigné. Et là, le diable en profite sérieusement avec les fausses doctrines. Les gens, et ça se passe très mal. C'est souvent ce qui se passe malheureusement dans les réveils. Et Dieu m'a montré que la connaissance de son peuple doit augmenter. Et c'est très important. Parce que la connaissance de Dieu est fondamentale. La croissance spirituelle est fondamentale. Pour pouvoir recevoir la moisson des inconvertis. Vous savez, souvent on prie pour des réveils. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça implique au niveau de l'église en général, des églises en général. Un jour, j'ai entendu le témoignage d'un frère qui était venu faire un séminaire de guérison ici en Argentine. Et ils ont vécu un grand réveil. Et il m'a dit, tu sais, un jour j'étais dans une ville, j'ai vu un évangéliste venir, et il y avait une église où il y avait 50 personnes. L'évangéliste est resté, il a fait une croisade là-bas. Le dimanche d'après, il y avait 1000 personnes qui étaient à la porte de l'église. Imaginez-vous, multiplié par 20 d'un seul coup. On serait débordé. Et la plupart du temps, cette moisson est perdue parce que le peuple n'est pas prêt. Dans cette étude sur l'Apocalypse, l'objectif c'est de vous éveiller, de vous éveiller devant des événements prophétiques pour que vous puissiez comprendre la souveraineté de Dieu par rapport à l'univers, mais aussi que vous compreniez l'éternité. Parce que quand on est qu'on ne comprend pas l'éternité dans nos vies. Nous ne sommes pas motivés. Nous n'avons pas envie de grandir dans ces vies. Par contre, quand tu sais que tu as la perspective de l'éternité devant toi, tu as vraiment envie de servir. Tu as vraiment envie d'être en feu pour lui. Tu as vraiment envie d'avancer et de faire tout ce qu'il faut pour que ta puissance puisse se manifester. Et c'est un de mes grands objectifs. Nous avons vu que le mot Apocalypse, ça vient du mot grec apocalypsis qui signifie révélation, quelque chose qui est dévoilé. Nous avons vu bien sûr que c'est Dieu qui choisit de dévoiler cette connaissance. Dieu est le Dieu de l'éternité. Il était, il est et il sera. Pour lui, la notion du temps n'existe pas. Et il nous l'a créé pour nous les hommes. Et c'est ça que nous devons comprendre si on peut le comprendre. L'espace et le temps, nous, nous avons cette dimension. Mais Dieu est au-dessus de cela. Et il nous a limités dans ces choses. Alors, nous avons vu que c'est le livre de l'histoire finale, l'accomplissement de toutes choses. C'est Dieu qui va venir finalement régner sur sa propriété. La terre. La terre dont la gestion a été prise par son pire ennemi, le diable. Mais Dieu reviendra avec nous. Nous qui l'aurons aimé. Nous qui aurons aimé son avènement. Et nous qui l'aurons servi. Et nous régnerons avec lui. Et nous verrons dans quelles conditions nous régnerons avec lui. On a vu que ce n'est pas un livre de catastrophe. Mais c'est le schéma prophétique final. Dieu va envoyer des jugements, c'est vrai. Et on verra comment. On verra que ce n'est pas les démons qui vont envoyer les jugements, c'est une confrontation de puissance. Le diable va chercher à se rebeller, bien évidemment, comme d'habitude. Mais Dieu, Christ, avec ses saints, nous allons écraser la puissance du diable. C'est une révélation aussi extraordinaire de la gloire de Dieu, comme nous allons étudier. Nous avons vu que c'est un livre qui n'est pas forcément chronologique. Donc attention, ce n'est pas une succession de visions qui forcément sont chronologiques. Ce livre est rempli de symboles, il faut faire attention aussi quand nous l'interprétons. Il n'est pas là pour nous faire peur, nous les chrétiens, nés de nouveau. Au contraire, il est là pour nous montrer comment nous allons régner comme des rois dans l'éternité. Et vous verrez que vous n'aurez rien à craindre de la tribulation parce que vous ne serez pas là. Nous serons au troisième ciel dans les sept ans de tribulation et nous verrons pourquoi. Mais ce livre aussi prévient clairement les pécheurs qui doivent se repentir parce qu'eux seront jugés pour l'éternité. Et donc cela nous aide, ce livre nous aide à comprendre ce que c'est que le salut. Ce qu'on appelle la consommation du salut, l'accomplissement du salut. Parce qu'aujourd'hui tu dis que tu es sauvé, d'accord? Mais tu vas passer par des événements prophétiques qui sont la souveraineté de Dieu totalement, qui vont se produire sans appel. Et il y a tout un tas de choses excellentes qui nous attendent. Mais quand on te dit tu es sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas au ciel, ça veut dire quoi?
Bien,
l'Apocalypse te l'explique. Entre autres l'Apocalypse. C'est la fin des temps en général. Alors je vous rappelle que nous ne devons pas spéculer sur ce qui se passe actuellement en Israël, avec l'Iran, avec tout ce qui s'est passé depuis que Jésus est ressuscité dans l'histoire. Ce n'est pas ce que l'Apocalypse décrit. Donc ne prenez pas l'Apocalypse en lisant les nouvelles. Par contre, il y a des signes qui montrent certaines choses.
Mais
bien sûr, sur Israël particulièrement. Nous en reparlerons. Et je vous expliquerai là où il faut porter notre attention. Et là où il faut éviter, parce que ce monde est manipulé par la peur. Et
Ou à chaque fois, nous devons nous poser des questions comme le monde se pose. Non, pas du tout. Alors, bien sûr, nous étudierons d'autres livres en parallèle que l'Apocalypse, comme Daniel, comme Matthieu 24 et 25, qui sont si mal compris. Nous verrons aussi Zacharie et quelques autres livres à droite et à gauche. Donc nous avions vu brièvement le plan de l'Apocalypse, je ne reviens pas dessus.
Et
nous avions commencé le chapitre
1.
Je vous ai montré une révélation. Révélation de Jésus-Christ, c'est par ça que ça commence, Apocalypse 1:1. Et je vous ai montré qu'une révélation ne se cherche pas, elle s'impose à quelqu'un. Et je vais vous montrer comment Jean a reçu ses révélations et ses visions. Et je vous ai montré que n'importe qui ne peut pas se permettre de dire « Moi, j'ai reçu une révélation, je vais écrire un livre et je vais le rajouter à la Bible. » Je vous ai montré que l'écriture est complète. Et les livres de l'écriture ont été sélectionnés au travers de l'histoire de l'Église et reconnus d'inspiration divine. Il y a des livres que certaines Bibles ont introduites qu'on appelle les livres apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus d'inspiration divine. Donc Jean ne cherchait pas cette révélation. Elle s'est imposée à lui. Et nous verrons comment des révélations parfois peuvent s'imposer à nous. Ensuite, nous avons vu verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent et qui trouvent ce qui est écrit. » Donc, nous avons vu qu'il faut lire, il faut écouter et il faut garder. Ensuite, nous avons parlé du mot prophétie. Et je vous ai montré que le Nouveau Testament nous montre qu'il y a la simple prophétie, qui est l'édification, l'exhortation et la consolation. Dans la simple prophétie, il n'y a pas d'élément de révélation. Et tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit peuvent prophétiser, ont la capacité de prophétiser. Par contre, il y a aussi des prédictions, des prophéties de prédiction, c'est-à-dire qui annoncent des choses à l'avance. Et dans les prophéties de prédiction, il y a des dons de révélation. Où Dieu montre le passé et où le présent et où le futur. Et bien évidemment, ce que Jean a reçu ici, c'est une prophétie avec des prédictions qui a autorité divine pour avoir été partie intégrante de l'écriture. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors, je vous ai montré que des prédictions parfois peuvent être conditionnelles. Et je vous ai expliqué que Dieu, dans sa volonté, à, je dirais, à trois voies, à trois côtés, trois facettes. D'abord, il y a la volonté désirée de Dieu. Ce qu'il veut pour l'homme. Il veut que tous les hommes soient sauvés, par exemple. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et il a pourvu au salut des hommes. Il veut que tous ses enfants marchent dans la plénitude de la connaissance de Christ. Et il veut que ses enfants soient remplis de son esprit. Qu'ils soient remplis de sa connaissance. Il veut que ses enfants marchent dans la guérison divine. Il veut que ses enfants prospèrent à tous égards financièrement. Il veut que ses enfants aient une longue vie sur la terre. Il veut plein de choses excellentes pour ses enfants. Et pour tous ceux qui veulent se donner à lui. Ça, c'est ce qu'il veut. Je ne sais pas,
mais ce n'est pas ce qui se passe.
Donc
Dieu a des désirs
il a fait
avec des promesses qu'il a émises. Mais ces choses-là vont dépendre de quoi? De la volonté de l'homme. Ensuite, il y a la volonté permissive de Dieu. Où tu es là, bon, tu vis avec le Seigneur, mais il y a des choses que tu fais où ce ne sont pas des directions divines.
Ce
n'est pas pour ça que Dieu vient et enlève ta vie, te frappe de mort. Non, par contre, tu limites ta destinée. Tu limites tes promesses. C'est-à-dire ce que le Seigneur a pour toi. Parce que tu fais des choix humains, ou parfois malheureusement des choix où l'ennemi a mis son grain, et tu prends des directions qui vont te coûter sur ta destinée. Ensuite, il y a la volonté souveraine de Dieu. Les deux premières sont toujours conditionnées à l'obéissance et à la foi de l'homme. Par contre, la volonté souveraine de Dieu, ce sont des choses que Dieu a prédites, qui vont se passer sans appel. Dans cette volonté souveraine, c'est Dieu qui décide les temps, les moments, de A jusqu'à Z, et qu'est-ce qui va se passer. Et dans les prédictions de la fin des temps, tout ce que Dieu a écrit, ça va se passer sans appel. Personne ne peut changer ça. C'est écrit depuis l'éternité. Et ça se passera tel quel. Dieu ne changera jamais cela. Ça se passera dans l'ordre divin tel qu'il l'a écrit dans cette parole. Exactement dans les temps où il a dit que ça se passera. Avec les personnages avec lesquels ça se passera. Il a prédit. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Et c'est ce que Jean a écrit, parce qu'il a reçu ces choses. Donc ici, on ne parle pas de conditionnel. Ce sont des choses qui sont inconditionnelles. Alors qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui sont conditionnelles. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Vous voyez, Dieu met des conditions à des promesses en vue de pouvoir agir dans la vie des hommes. Là, sur la fin des temps, dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de conditions. Le jour où le Père dira à Jésus, maintenant mon fils, il est temps que tu reviennes, enlever ton église. Ça se passera sans appel. Tous les événements prophétiques qui sont prédits vont se passer tel quel selon la souveraineté de Dieu. Tout ce que nous allons voir dans l'Apocalypse, ce sont des prédictions. C'est-à-dire qui concernent le futur, se passeront exactement et nous en verrons une grande partie. Et il y a une bonne partie dans lesquelles nous serons même des acteurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'éternité? Déjà, il y a pas mal de choses qui vont se passer quand Dieu va venir instaurer son royaume. Alors, nous allons maintenant aller au verset 4. Et il dit Jean aux sept églises, et nous avions fait un petit schéma sur les sept églises, je vous remontrerai ces cartes-là, qui sont en Asie. L'Asie mineure, je vous rappelle, en Turquie, à l'ouest de la Turquie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône.
Alors
là, on voit que la Bible va nous parler des sept esprits.
turabona Bibiliya itubwira ngo impuhwe mu ndwi
qui sont devant son trône.
Ngo ziri imbere y'intebe yayo.
Et cela peut paraître un peu étrange. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, vous savez, je ne crois pas trop dans la Trinité. Puis d'abord, dans l'Apocalypse, il y a marqué qu'il y a les sept esprits de Dieu. Non, Dieu n'a pas cet esprit. La Bible nous dit clairement que Dieu est un seul Dieu révélé en trois personnes. Vous savez, je suis étonné parce que quand je parle parfois à des chrétiens qui prient dans des églises supposées protestantes, et qu'on parle de la Trinité, il y a des gens qui disent oui, mais bon, moi, la Trinité. Mais la Trinité, c'est très simple. La Trinité est une révélation de la parole.
Dès
le premier verset de la parole. Dans Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu se révèle comme un seul Dieu pluriel. Lorsque la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on étudie ce verset dans l'hébreu, on a au commencement, c'est-à-dire dans un passé éternel, Dieu, et le mot Dieu ici qui a été traduit par Dieu, c'est le mot Elohim. Et Elohim, c'est le pluriel d'Elohah en hébreu. Et Eloah, ça veut dire tout puissant. Et là, littéralement, Elohim, qui a été traduit par Dieu, ça veut dire tout puissance, avec un S.
Alors,
vous allez me dire, il y a trois dieux alors. Non, la Bible nous montre qu'il y a un seul Dieu, révélé en trois personnes. Parce que tout de suite, la Bible va dire, créa. Et là, on a l'impression, entre guillemets, si on écrivait du bon français, on ferait une faute. Parce que vous avez un sujet qui est pluriel, Elohim, et vous avez un verbe qui d'ailleurs ne s'applique qu'à Dieu dans l'hébreu de l'Ancien Testament, parce qu'il y a que Dieu qui est capable de créer, c'est-à-dire amener à l'existence quelque chose à partir de rien. Et là il est dit Dieu, ou Dieu si vous préférez, créa, troisième personne du singulier.
Imana nyinshi izo mana yaremye.
Nyinshi, t'exagères quand même. Ils sont que trois. Hein. Pas beaucoup. Et en fait, sous-entendu, Elohim,
go Elohim,
donc Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pluralité dans l'unité, créa singulier.
Ubwo bwinshi bwaremye.
C'est dur en Kirundi de traduire ça.
Ubwinshi bwaremye ariko ari nk'umuntu umwe.
Et là, on voit que Dieu pluriel.
Urumva ngo Imana mu bwinshi.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Data mwana na mpuhwe muyera mu
bwinshi. Est un seul Dieu.
N'Imana imwe.
Qui crée les cieux et la terre.
Imana imwe irema amajuru n'isi.
C'est comme une équipe de football. On parle d'une équipe, mais il y a des joueurs. Et on dit, telle équipe a gagné telle chose. Mais c'était une équipe qui représente une unité. On dit jamais, un joueur a gagné le match de foot. Non,
ce
n'est pas un joueur qui gagne le match de foot. C'est l'équipe qui gagne. Mais dans cette équipe, chaque joueur a eu un rôle. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est un seul Dieu. Mais le Père planifie.
Et le Fils exécute. Et le Saint-Esprit révèle. Le Père a planifié la création des cieux et de la terre. C'est lui qui avait prévu toutes choses. Le Fils a exécuté cette création. Et le Saint-Esprit a révélé cette création. La même chose dans le plan de notre salut. La Bible nous dit dans Ésaïe, qui enverrai-je? Le Père avait déjà planifié. Et le Fils va dire, me voici, envoie-moi. Et le Fils va être envoyé. Dieu le Fils va s'incarner. Il va mourir et ressusciter. Il va remonter à la droite du Père. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient révéler l'œuvre du salut. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre le pécheur de pécher. Et c'est le Saint-Esprit qui vient le faire naître de nouveau. Donc il révèle l'œuvre du salut. C'est très simple, la Trinité. Il y a des gens qui ont beaucoup compliqué ça. Ils ont dit, oui, la Trinité, c'est comme un œuf. Les grands théologiens. Un œuf. Le Père, c'est le jaune. Le Fils, c'est le blanc. C'est pas le Muzungu, c'est le blanc de l'œuf. Et le Saint-Esprit, c'est la coquille. Alors il y en a d'autres, ils ont comparé ça aux trois états de l'eau en physique. Le Père, c'est la glace. Je
ne
sais pas où ils ont trouvé ça, mais peut-être. Le Fils, c'est le liquide, l'eau liquide.
Et
le Saint-Esprit, c'est la vapeur. Il y a vraiment des gens qui ne comprennent rien au monde spirituel. Non, Dieu est un seul Dieu, mais révélé en trois personnes. Père,
qui
a son rôle. Fils qui a son rôle. Et le Saint-Esprit qui a son rôle. Alors maintenant, quand nous lisons un tel verset d'Apocalypse, où il est parlé des sept esprits qui sont devant son trône. Ici, bien sûr, c'est une image. Et nous allons découvrir que le Saint-Esprit, quand nous étudions la parole de Dieu, parce que justement, l'important, c'est d'apprendre à étudier la parole. Nous avons trop de chrétiens ignorants des profondeurs de la parole. Si ça fait 5 ans ou 10 ans que tu es en Christ, et que la parole ne te passionne pas,
mon
frère, ma soeur, tu as un problème. C'est que tu n'as pas compris que cette parole, tu pouvais t'en délecter, elle pouvait se révéler dans ton cœur de façon incroyable. Produire les choses les plus extraordinaires dans ta vie. Ça veut dire que tu t'es pas mis en position de vraiment passer du temps dans ta vie pour étudier la parole. Vous savez, c'est important. Moi, je vois beaucoup de chrétiens.
Leur
vie chrétienne, c'est venir à l'église.
Bon,
bah, il y a la louange. On a un sermon. On prie un peu. Et voilà, c'est ma vie chrétienne.
Mais
non, mon frère, ma soeur, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est infiniment plus profond que ça. La vie chrétienne, c'est découvrir la révélation de Dieu. Et une de ces révélations que tu auras particulièrement, c'est au travers de sa parole. Donc ici, la Bible parle des sept esprits qui sont devant son trône. C'est une image parce que il n'y a pas sept esprits de Dieu. Par contre, il y a sept facettes de l'esprit de Dieu. Regardez ensemble Ésaïe chapitre 11. Là, Ésaïe va nous donner. Il va nous donner exactement ces sept facettes du Saint-Esprit. Au chapitre 11, à partir du verset 1 et verset suivant, il est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Verset 2, l'Esprit de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, reposera sur lui. L'Esprit qui repose sur quelqu'un, ça s'appelle l'onction. Voilà, tout simplement. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 3, s'il vous plaît. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire.
Ngo ku gishitsi cha Isaï, hazobaduka agashami, kandi umunago wanaze mu mizi yiwe uzokwama, mwe mu Uhoraho azoba ari kuri we, uwa no kuvuga ngo ni namavuta, impwe mu yubwenge, ni yugutahura, impwe mu yo kuja inama ni ubushobozi, impwe mu yukumenya Uhoraho ni yukumwubaha.
Alors, ici, nous allons voir sept facettes du Saint-Esprit. Nous allons voir différentes traductions. Et nous allons voir que l'Esprit Saint a sept facettes qu'il veut exercer dans nos vies.
D'abord,
la Bible nous parle de l'Esprit de sagesse. Première facette. La sagesse, c'est appliquer la connaissance. C'est appliquer la connaissance divine pour amener des solutions divines à des problèmes humains. Amener des solutions divines aux problèmes humains. Mais savoir donc appliquer la connaissance par rapport à une situation particulière. Vous pouvez avoir de la connaissance et ne jamais réussir quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui ont des gros diplômes, qui ont beaucoup de connaissances. Là, je parle dans le naturel. Et qui sont au chômage presque toute leur vie, qui ne travaillent jamais dans le domaine où ils ont étudié. En fait, cette connaissance, ils ne l'ont jamais réellement appliquée. Pourtant, ils ont de la connaissance. Mais ils n'ont pas pu mettre cette connaissance en application pour diverses raisons. Ça peut être pour des mauvaises conjonctures économiques. Ça peut être parce qu'eux-mêmes ne sont pas débrouillards. Pour travailler dans le domaine où ils ont étudié, etc. etc. Ça peut être différentes raisons. Ça peut être parce qu'ils sont tombés malades et qu'ils sont hors circuit, je dirais, professionnel, etc.
Bon, différentes raisons.
Là, évidemment, on parle de sagesse divine. Vous savez, dans votre vie, si vous parlez de problème, vous n'aurez que des problèmes. Si vous ne voyez que des problèmes, vous vivrez et vous mangerez vos problèmes. La vie, ça marche comme ça. Par contre, si vous changez votre mentalité en méditant sur les solutions divines, vous allez voir les choses les plus extraordinaires. Nous avons besoin de la sagesse qui vient d'en haut pour appliquer la parole de Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu et être un échec. Il y a beaucoup de gens qu'on voit comme ça. Ils ont une certaine connaissance de la parole de Dieu, mais ils ne savent pas comment l'appliquer. Parfois parce qu'on leur a mal expliqué. On leur a simplement dit, bah écoutez, vous connaissez la parole de Dieu et demain tout ira bien. Ça
ne
marche pas tout à fait comme ça. Non, il va falloir que tu apprennes à appliquer la connaissance de la parole.
Et
la connaissance de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 quelque chose qui est important et justement que le Saint-Esprit veut infuser en nous. Jacques chapitre 1, les premiers versets, et nous allons voir que la sagesse est quelque chose de très important pour diriger notre vie. Quelqu'un qui manque de sagesse, même si c'est un chrétien brave, honnête, sincère.
Umuntu atagira ubwenge mu buzima bwiwe naho yaba ari umuntu ameze neza akunda Imana ameze gute?
Quelqu'un qui aime prier.
Akunda gusenga.
Et tout le temps avec sa Bible.
Akunda kwama afise Bibiliya.
C'est bien d'être avec ta Bible tout le temps.
Ni byiza kwama afise Bibiliya.
Mais qu'est-ce que tu en appliques?
Mwega none mu byo usoma
icyo ushaka.
Icyo ushira mu ngiro bigana gute?
C'est pas ce que tu connais.
C'est
comment tu appliques ce que tu connais.
C'est
ça qui est important.
Et
comment ça porte des fruits pour le royaume de Dieu.
La Bible
nous dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2. Bon, mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, c'est-à-dire matures et accomplis, que vous ayez grandi dans le Seigneur sans faillir en rien. Si quelqu'un, verset 5, d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Verset 5, s'il vous plaît.
Ouais. Ariko asangwa hari uwo muri mwebwe ku murongo wa gatanu akenye ubwenge. Na busaba Imana. Igabira bose atakinubwe idaterane miragwe azobuhabwa.
Donc la Bible clairement nous dit que si nous manquons de sagesse.
Bibiliya bitwomoye neza ngo nimba tabwenge dufise.
Et parfois vous savez, il y a des gens ils sont étonnants, des chrétiens sont étonnants.
Hari abantu rero rimwe na rimwe batangaje by'ukuri.
Quand ils ont un problème,
iyo afise ingorane,
ils prient.
Mais asenga.
Ok, tu peux prier, mais ça veut tout dire et ça veut rien dire de prier.
Ega gusenga. Bisobanura byose kandi nta kimwe bisobanura.
Moi je connais des chrétiens qui prient depuis 10 ans, même 20 ans, même certains 30 ans et qui sont toujours dans les mêmes problèmes.
Dans la Christo basenga imyaka 10 mirongo 20 naheze mugabo ivyo barimo muri ico gihe n'ivyo barimo n'ubu.
Et des fois ce qu'ils ne comprennent pas,
gusanga kenshi
byo bagasanga. La prière a son rôle.
Nuko gusenga birafise igikorwa.
Mais l'application de la parole, c'est-à-dire la sagesse, ce qu'on pourrait appeler plus l'inspiration.
Ariko gushira mu ngiro ubumenyi aribwo bwenge cyangwa guhumekerwa.
C'est-à-dire savoir quoi faire.
Mwene majambo kumenya
igitekerezo. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici.
Umviriza neza ngaha.
Savoir quoi faire pour répondre à la situation.
Kumenya igikwiriye gukogwa kiza kibera inyishu ikibazo gihari.
Non pas réagir à la situation.
Atari gukora kubera ko haje ikibazo.
Souvent quand il y a des choses qui sont devant nous, des problèmes ou des défis de foi, nous allons réagir. Donc, on va réagir, c'est agir par rapport à ses sentiments, ce qu'on ressent au moment même. Dieu ne t'appelle pas à réagir par rapport à tes sentiments parce que c'est là où souvent on est charnel. Il t'appelle à répondre à une situation d'une façon divine. Si tu peux saisir ça, c'est très important. Ne pas réagir, mais répondre divinement à une situation. Si tu apprends à faire ça, mon frère, ma soeur, souvent, tu sortiras de difficultés comme ça. Et tu verras des personnes qui restent dans leurs problèmes, alors qu'ils prient, alors qu'ils sont à l'église à toutes les réunions. Mais on a l'impression que ces gens-là sont aveugles. Pourtant, il prie, et la prière a son rôle. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La prière a son rôle. Mais la prière n'est pas la réponse à tout. Parce que Dieu te demande d'agir, de pratiquer quelque chose par rapport à ta situation. Et pour ça, tu as besoin de la sagesse du ciel. Tu as besoin de communiquer avec le Saint-Esprit. Qu'il te transmette cette sagesse. Et au bout d'un moment, tu dis, ça y est, je sais ce que je vais faire. Tu sais ce que tu dois faire. C'est au plus profond de ta nature spirituelle.
Ce
n'est pas spectaculaire ce que je vous dis. Vous préféreriez qu'on vous dise, tu pries, tu jeûnes. Un ange va t'apparaître. Il a des ailes. Non, les anges n'ont pas d'ailes, comme nous le verrons.
Et
l'ange m'a parlé. Et il a fait un miracle.
Et
tout a changé.
Ça
peut arriver.
Mais j'avoue que
c'est assez
rare.
Donc ça peut dire que tu auras peut-être un problème de résolu comme ça dans ta vie.
Et tout
le reste, tu seras dans un échec. Et en plus, Dieu ne te promet pas que si tu pries, tu verras un ange. Par contre, Dieu te donne des solutions dans sa parole.
Au travers
de son esprit. Si vraiment dans cette vie, tu vois souvent des échecs. Dieu ne t'appelle pas à l'échec. Dieu t'appelle à réussir. Mais pour cela,
il faut
voir que tu marches dans la sagesse divine. Que tu réponds divinement aux situations. Si tu ne comprends pas cela, tu échoueras dans ta vie spirituelle. Je dis, tu pourrais être un bon chrétien, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui ne marche pas dans le péché, quelqu'un qui est à l'église, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui ne fait pas de mal aux autres, et tu peux échouer. Et il y a beaucoup de chrétiens qui échouent parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas cette relation avec le Saint-Esprit. Et alors que tu es en train de méditer la parole, le Saint-Esprit va te transmettre une sagesse surnaturelle. Et d'un seul coup, tu vas dire, oui, je sais. Je sais exactement ce que je dois faire. Parce qu'à l'intérieur de ton esprit, le Saint-Esprit qui habite va mettre une impulsion. C'est comme si quelque chose, entre guillemets, te poussait un peu à faire telle ou telle chose. Tu l'as fait et d'un seul coup, la situation se débloque. Alors que tu auras pu prier 10 ans
et
rester dans ce problème-là parce que tu n'avais pas pratiqué la parole. Nous avons besoin de sagesse divine
et
elle nous est transmise par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Timothée,
elle
nous parle de ça dans 2 Timothée 1:7, elle nous dit quel type d'esprit nous avons reçu. Car nous n'avons pas reçu, verset 7 de Timothée 1:7, un esprit de timidité, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Confesse. Le Saint-Esprit qui est en moi, dites le Saint-Esprit qui est en moi.
Le Saint-Esprit qui est en moi
est un esprit de sagesse.
Est un esprit de sagesse.
Il me transmet la sagesse divine.
Il me transmet la sagesse divine
pour résoudre les problèmes humains.
Pour résoudre les problèmes humains.
Amen.
Amen.
Vous savez, c'est pas très compliqué.
Si bien nous n'avons pas comme ego,
mais c'est très surnaturel.
Alors qu'on est bien obligé d'avoir vu les mensonges.
Le problème, c'est que les chrétiens veulent beaucoup de spectaculaire. Oui, j'étais à moitié coupé en deux dans mon accident de voiture et Dieu m'a restauré. Oui, gloire à Dieu, mais si tu es à moitié coupé très souvent dans ta vie, ça veut dire que tu as des accidents tout le temps. C'est vrai, c'est spectaculaire, gloire à Dieu. Mais honnêtement, je préfère de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Plutôt que de me retrouver dans des tragédies. Vous savez, il y a des chrétiens, on a l'impression que, entre guillemets, le ciel, le mauvais ciel, leur tombe sur la tête toutes les 5 minutes.
C'est-à-dire
qu'ils ont des problèmes. Un jour, ils ont un accident de voiture très grave. Le lendemain, ils perdent quelqu'un de proche. Le surlendemain, on leur a volé tout leur argent. Mais attendez, Dieu t'appelle à autre chose. Dieu t'appelle à avoir une vie abondante. Ça, c'est pas la vie abondante, c'est la vie destructive.
Une
désabondance. Et il y a plein de gens comme ça. Et puis, ils sont contents, ils vous racontent tous leurs problèmes et leurs catastrophes. Dieu t'appelle à marcher de gloire en gloire. De résoudre des problèmes humains. Dieu t'appelle à être un résolveur de problèmes. Pas un générateur de problèmes. Pas un aimant ou un attracteur de tous les problèmes du monde. Ta vie doit changer. De gloire en gloire. Peut-être que tu étais tombé très bas. Tu
étais
dans des circonstances épouvantables avant d'être sauvé. Mais Dieu t'appelle à être restauré et à construire ta destinée. Et pour ça, tu as besoin de sagesse. La Bible nous dit que nous avons un esprit de sagesse. Donc tu dois réussir dans les affaires de cette vie. Un autre domaine où tu as besoin de beaucoup de sagesse. Colossiens 1:9 nous en parle. Et là aussi c'est très important. C'est une des facettes de l'esprit de Dieu. Colossiens 1:9, un verset qui est très important. C'est Paul qui écrit aux Colossiens. Et il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Lis jusque-là pour l'instant. Connaissance de sa volonté. Connaissance de sa volonté, oui. Donc tu pries et le Seigneur te parle. Oui, mais
il
ne faut pas t'arrêter là dans la méditation ici. Parce que la parole va nous dire quoi? En toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle par rapport à la volonté de Dieu que Dieu va te révéler. Beaucoup de chrétiens vont dire, le Seigneur m'a dit que. Le Seigneur m'a montré ça. Certains, c'est tout à fait vrai. D'autres, ils font travailler leur imagination. Et ils signent à la place de Dieu toutes les 5 minutes. Mais Dieu parle. Et Dieu nous parle sur notre destinée. Quand nous désirons vraiment marcher avec Dieu, que nous cherchons sa face. Dieu ne demande pas de nous parler. Mais la plupart du temps, frères et sœurs, je pourrais vous le dire, je l'ai vu je ne sais combien de fois de mes propres yeux. La plupart du temps, ce que Dieu a dit à une personne, la personne ne le verra jamais avec ses yeux. Parce que la plupart des chrétiens manquent de sagesse et d'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que Dieu va leur parler, et la plupart du temps, parce qu'ils manquent de maturité spirituelle, de compréhension du royaume de Dieu, ils vont prendre cette parole et ils vont l'appliquer à leur façon. Et le résultat, c'est un échec. Je peux vous dire, je l'ai vu des centaines de fois. J'ai vu des destinées gâchées à cause de ça. Alors que Dieu avait parlé, il avait confirmé. Je
ne
parle pas des gens, vous savez, qui vont vous dire n'importe quoi. Tu es ceci, tu es grand, tu seras un grand, tu seras. Les faux prophètes flatteurs qui aiment vos gros bijoux, mesdames. Et vos belles voitures. Qui veulent s'approprier par la foi.
Je ne parle
pas de ces gens-là. Mais Dieu parle à son peuple. Mais son peuple, souvent, n'a pas cette sagesse et cette intelligence. C'est une des facettes importantes du Saint-Esprit. La sagesse du Saint-Esprit. Revenons à Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. C'est tellement important de comprendre et de connaître le Saint-Esprit. Si Dieu t'a parlé, si tu veux vraiment marcher avec Dieu, il va falloir que tu apprennes à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Afin de voir les différentes facettes du Saint-Esprit dans ta vie. Entre guillemets, c'est cet Esprit de Dieu. Donc esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence, nous venons d'en parler ici. C'est comprendre les choses telles que Dieu les comprend.
Veut
que nous les comprenions. Parce que Dieu nous appelle à comprendre les choses spirituelles de manière spirituelle. C'est ce que d'ailleurs Paul disait dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, Paul va nous parler de cela.
Chapitre 2, à
partir
du chapitre
1 Corinthiens, chapitre 2. On va lire à partir du verset 1, puis après on va sauter un certain nombre de choses, parce que sinon ça serait trop long à lire. Il est dit au verset 1 Corinthiens 2, « Pour moi, frère, que lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, sous-entendu humaine, là, ici, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Alors, ensuite, il va parler de cette sagesse, chapitre 6, verset 6, pardon. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ce sont ceux qui sont matures en Christ. Sagesse, regardez bien, qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Là, il parle des puissances sataniques. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue. Là, il parle des puissances sataniques, de Satan, des puissances sataniques, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est-à-dire ce que l'homme n'a pas fait lui-même, pensé de lui-même. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Regardez bien maintenant le verset 10. Il est dit, à nous, Dieu l'a révélé. Donc ce plan, c'est le plan divin, notre rachat, etc. Par l'Esprit. Il est dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Regardez bien ici. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou qu'on le discerne, qu'on les comprend, si vous préférez. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, c'est-à-dire discerne tout, comprend d'une manière divine. Il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. On peut lire le verset 13, s'il vous plaît.
Umurongo wa 13 ngo navye nyene turabivuga ariko ntitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu ariko tubivuga mu yigishwa na mpwemu tugereranya iby'impwemu n'iby'impwemu bindi.
La Bible clairement nous montre une chose, il y a une connaissance naturelle mais il y a aussi une connaissance spirituelle.
Ariko turuko turabona neza ko bibiri ivuga ko hari ubumenyi busanzwe bw'ubwenge mu buryo busanzwe n'ubumenyi bw'impwemu.
Et la connaissance spirituelle c'est la connaissance de Dieu. La connaissance du royaume de Dieu, la connaissance des lois du royaume de Dieu, que nous devons comprendre non seulement avec nos têtes, mais surtout avec notre nature spirituelle. C'est-à-dire que c'est tellement en toi, ancré en toi, que ce sont des choses qui font partie de toi-même au bout d'un moment. Et parce que tu les comprends. Parce que tu n'es pas là en train de te dire, mais Ben, je ne vois pas pourquoi Dieu nous demande de faire ça.
Bon,
je veux bien le faire, mais il n'y a pas de foi là, ici. En fait, tu dis que tu comprends les choses de Dieu, mais tu ne les comprends pas. C'est-à-dire, bon, ah oui, le pasteur a dit ça, donc on doit le faire. Oui, c'est bien d'écouter ce que le pasteur dit, c'est normal. Mais derrière tout ça, tu dois prier, tu es dans une attitude de prière, parce que c'est la parole de Dieu. Et cette connaissance que tu as entendue doit entrer en toi. Pour que justement, ça devienne une révélation, parce que tu comprends ces choses. Parce que tu as l'intelligence des choses de Dieu. Bien sûr, beaucoup de chrétiens citent la Bible sans intelligence.
Des fois,
il y a des gens qui sortent des versets.
Et
qui vous les interprètent. Et vous comprenez le manque d'intelligence que ces personnes peuvent avoir. Dieu t'appelle à avoir de l'intelligence spirituelle. Peut-être que tu n'as pas eu forcément la chance, entre guillemets, de faire des études dans le naturel. Mais tu peux devenir quelqu'un d'ultra intelligent dans le monde spirituel. Et réussir des choses que même des gens qui ont beaucoup étudié dans le naturel ne réussiront jamais. Parce que toi, tu puises dans une source divine. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Vous savez, la Bible, moi ce que j'aime avec Dieu, c'est que finalement avec Dieu, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les gens qui peuvent être intelligents dans ce monde. Et puis les gens qui peut-être n'ont pas eu la chance de faire beaucoup d'études. Mais tu peux vivre une vie complètement différente. Dans l'intelligence des choses de Dieu. Et Dieu peut t'utiliser. Même si tu
n'as
pas fait spécialement des études. Et il peut t'utiliser aussi si tu es quelqu'un d'ultra intelligent. Dieu peut nous utiliser.
Mais
ce qu'il veut, c'est nous donner une forme d'intelligence qui nous est transmise par le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Un jour, il y a eu un ministère, c'était un Anglais. Cet homme-là savait à peine lire et écrire.
En fait,
si je me rappelle bien, c'est sa femme qui lui avait appris à lire et écrire. Mais cet homme a été utilisé par Dieu d'une façon incroyable. Il s'appelait
Smith Wigglesworth.
Il a exercé son ministère dans la deuxième partie du 20e siècle. La première partie du 20e siècle, excusez-moi. Cet homme, il a ressuscité environ une vingtaine de personnes. Parce qu'il avait de l'intelligence du royaume. Il avait l'intelligence de la foi. L'intelligence de la puissance de Dieu. L'intelligence de la parole. Et son métier, c'était, il était plombier au départ. Sans aucune éducation. Et
cet
homme a réussi incroyablement dans son ministère. Et il y a
eu
d'autres gens qui étaient des super grosses têtes, qui étaient des grands avocats, gros businessmen, qui ont très bien réussi aussi dans le monde spirituel. Quel est le point commun de ces personnes? C'est qu'ils savaient puiser au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous inspirer notre c'est bien, mais c'est une chose seulement.
Vous
savez, il y a les chrétiens. Moi, j'ai fait partie des églises de Pentecôte en France, c'est là où on a reçu le Seigneur. Et quand on était baptisé du Saint-Esprit, on était des super géants. On pensait que, voilà, une fois que tu étais rempli du Saint-Esprit, que tu étais alors là, tu étais un super spirituel. Il n'y avait pas plus, quoi.
Je n'ai
pas fait ça. Il est responsable de son interprétation devant le Seigneur. Vous êtes d'accord, hein? Et en fait, je ne savais pas que le Saint-Esprit pouvait transmettre des choses extraordinaires. Moi, je pensais que pour avoir des révélations sur la parole, il fallait qu'un ange descende et te dise, Olivier, assieds-toi là, je vais te parler. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de l'intelligence spirituelle. Et là, tu vas commencer à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Je vous dis, frères et sœurs, je vois beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment le royaume de Dieu fonctionne. Et ça, c'est vraiment dommage. Revenons à Ésaïe 11. Ne perds pas tes années, mon frère, ma soeur. Vous savez, les années qui passent, c'est des années qu'on ne peut pas rattraper. Passe du temps dans la révélation de Dieu. C'est vraiment intéressant. Au bout d'un moment, ça va devenir passionnant. Alors maintenant, esprit de conseil. Le conseil, c'est quelque chose dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions. Et le Saint-Esprit, clairement, est un esprit de conseil. C'est-à-dire que tu es là, tu dois prendre des décisions. Et c'est vrai que la sagesse va te donner l'impulsion. Mais le conseil va te donner les directions. Et nous avons besoin de conseils. Et aussi, on a besoin des autres. Vous savez, quand il y a des chrétiens qui disent, moi, je fonctionne seulement de la façon suivante. Par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont là en train de dire, ah, le Saint-Esprit m'a dit. Et toutes les 5 minutes, le Saint-Esprit m'a dit. Je me souviens un jour, on était, il y a bien longtemps, quand j'avais plus de cheveux sur la tête, on était aux États-Unis. Et alors, on était invités dans une super maison. C'était un millionnaire américain qui avait une maison magnifique. Et sa femme était sauvée, vraiment engagée. Je crois d'ailleurs c'est dans l'église de l'époque d'Austin, mais du père Austin, John Austin. Son père donc. Et en fait, la femme était sauvée, la femme de ce millionnaire. Mais le mari, le gros businessman, très hésitant. Et il avait un peu de quoi, le monsieur. Parce que finalement, sa fille était mariée à un monsieur très inspiré. C'était un gars énorme. Il était large comme ça et il mesurait au moins 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres quelque chose. Énorme. Et alors, c'était le genre de personne qui marchait selon l'esprit. Et alors, on était en train de chercher, je ne sais plus, qu'on voulait acheter quelque chose dans un magasin. Et on avait été dans c'était une sorte de galerie marchande, mais c'était tellement grand, et c'est pas, ce que je vais vous dire, c'est réel, elle faisait plus, je crois, d'un kilomètre ou deux kilomètres de long.
Il y avait
des magasins partout là-dedans. C'était en quelque sorte un immense, gigantesque bâtiment dans lequel il y avait quasiment des rues. Et alors ce monsieur qui marchait par l'esprit, finalement, il se faisait appeler prophète. Et alors, on marchait. Et puis nous disait, ah oui, ah c'est par là. Alors, on marchait par là. Et après, il se tournait, il disait, ah le Saint-Esprit me dit que c'est par là maintenant. Et après, on marchait, on était vraiment fatigués, ça faisait au moins une heure qu'on tournait. Et alors après, ah oui, en fait c'est de l'autre côté, le Saint-Esprit vient de me dire que c'est de l'autre côté maintenant. Ce jour-là, je crois que j'ai été guéri des gens qui disent « Le Saint-Esprit me dit toutes les 5 minutes. » Le Saint-Esprit nous parle. Mais il ne nous parle pas toutes les 5 minutes en nous parlant. Par contre, si tu sais puiser les choses,
le
Saint-Esprit va te montrer un certain nombre de choses.
Au fur et
à mesure que tu vas développer ta relation avec lui. Si tu veux réussir ta vie et que tu penses que le Saint-Esprit va te parler toutes les 5 minutes, tu as tort. Alors, pour revenir au conseil, tu as des frères et sœurs. Et ne dis pas, moi j'ai besoin de personne. Je marche par le Saint-Esprit. Non, Dieu a placé autour de toi des frères et sœurs. Et là aussi, fais attention qui tu fréquentes. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être entourés de bonnes personnes. Mais tu attires aussi ce que tu es toi-même. Si tu es ouvert à tout et n'importe quoi, tu vas attirer tous les prophètes du coin.
Les
soi-disant prophètes, bien sûr. Et tu seras dans la confusion. Par contre, il y a des personnes que Dieu place.
Écoutez
bien ce que je vais vous dire. Dieu place sur ton chemin des bonnes personnes. Et Dieu ne place pas des mauvaises personnes qui te créeront des problèmes. Mais si tu es quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, il y a des gens parfois qui te donneront des conseils. Et tu te diras, c'est bizarre. Quand tu m'as donné ce conseil-là, c'est comme si c'était le Seigneur qui me parlait. Pourtant, la personne ne te dira pas, je vais te dire, mon frère, que le conseil que je vais te donner vient du Très-Haut directement. Non, vous savez, parfois, le Saint-Esprit va vous utiliser d'une façon très simple. Vous êtes là, vous parlez avec quelqu'un. Et le Saint-Esprit qui est en vous, l'esprit de conseil, d'un seul coup, vous allez aborder une discussion avec la personne. Et paf, vous allez tomber exactement sur un point où la personne avait besoin d'être conseillée. Et le Saint-Esprit qui est dans l'autre personne commence à témoigner. C'est ça. Écoute. Et là, le Saint-Esprit est en train de te parler. Mais peut-être pas d'une façon aussi émotionnelle qu'une prophétie. Gloire à Dieu pour les prophéties. Gloire à Dieu pour l'Esprit. Quand il bouge et que les gens sont... C'est ok, pas de problème. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais fais attention à qui tu fréquentes. Dis à ton voisin, fais attention à qui tu fréquentes. Et si la crainte d'esprit, tu vas te retrouver un certain nombre de fois avec le Seigneur qui mettra quelque chose sur ton chemin, quelqu'un sur ton chemin, qui va t'aider à prendre les bonnes décisions. Ou alors, le Seigneur sait que des fois, tu commences à t'écarter du bon chemin. Et là, quelqu'un vient. Et le Saint-Esprit l'utilise. Et ça te ramène sur le bon chemin.
Vous
voyez, le Saint-Esprit peut nous utiliser d'une façon différente. Il y a les dons du Saint-Esprit. Oui, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas seulement les dons du Saint-Esprit. Il faut être ouvert aux dons du Saint-Esprit. Moi j'aime les dons du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas vivre avec les dons du Saint-Esprit seulement. Tu as besoin de comprendre un certain nombre de choses que le Saint-Esprit met en toi. Le rôle du Saint-Esprit. Esprit de conseil. Ensuite il est dit de force. De force, de puissance. L'Esprit de Dieu est un esprit de puissance. L'onction de Dieu brise les joues.
Ésaïe
10, verset 27. La Bible nous parle de l'onction qui brise le joug.
Bibiliya tubwira ku bijyanye n'amavuta amenagura ingogo kandi uko ni ukugaragazwa k'ubushobozi mu buzima bw'abana b'abantu.
La Bible dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et l'onction, c'est pas la graisse, la bonne traduction, c'est l'onction fera éclater le joug.
Go. Kandi kuri uwo munsi imitwaro babaremeka izobava ku bitugu n'ingogo babambika mu mazosi zizovunwa.
Dans d'autres traductions, c'est l'onction qui brise le joug.
Ahandi babisobanuye neza izo ngogo zizovunwa cyangwa zizomenwa n'amavuta.
L'esprit de Dieu est un esprit de puissance. La puissance de conviction de péché, par exemple. Vous pouvez voir une personne, vous pouvez lui parler de Jésus. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, et vous parlez à cette personne, et la personne, elle va être convaincue par le Saint-Esprit. Par contre, vous pouvez être là en train d'essayer de convaincre une personne de se convertir, entre guillemets, ou de donner sa vie à Jésus. Faire tous vos efforts. Et la personne vous dira oui par plaisir, viendra à l'église par plaisir. Non, dans l'évangélisation, nous avons besoin de puissance qui amène des convictions de péché. Parce que quelqu'un qui prie la prière du pécheur, Seigneur, pardon pour mes péchés, Seigneur Jésus, je crois en toi, Seigneur, viens, sauve-moi. Si cette personne n'est pas sous une puissante conviction de péché, si la puissance du Saint-Esprit n'est pas là et a mis une puissante conviction sur lui, cette personne ne naîtra pas de nouveau. Ça va faire un adhérent, un faux chrétien. Quelqu'un qui dit je fais partie du groupe des chrétiens. Mais quand vous leur demandez leur témoignage, ils n'ont rien d'autre de plus stupide à dire. J'étais catholique et je suis devenu protestant. Comme si, en disant je suis protestant, ça veut dire que tu es sauvé. Rien du tout. Non, il faut la puissance de Dieu qui brise le joug du péché. La puissance de Dieu qui brise le joug de la maladie. La puissance de Dieu qui brise le joug de la pauvreté. La puissance de Dieu brise tout ce qui est malédiction. Ce jour où tu nais de nouveau, c'est ce qui se passe. La puissance de Dieu qui écarte les puissances sataniques. Le jour où tu veux délivrer un démoniaque, tu
n'as
pas besoin d'un bâton, tu as besoin de la puissance de Dieu. Un jour, je connaissais un groupe comme ça. Qui se réclamait de grands chasseurs de démons avec des bâtons. C'est
honteux.
Il y a des gens qu'on a battus comme ça. Qui avaient plein de coups et qui étaient toujours aussi possédés. Parce que pour détruire les œuvres du diable, on a besoin de la puissance de Dieu, frères et sœurs. C'est la puissance de Dieu qui brise le joug du diable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes 10:38. La Bible nous dit dans Actes 10:38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Ngo amakuru avuga ibya Yesu mu Nyanazareti, ngene Imana yamususe ko muhemu yera n'ubushobozi akagendagirira abantu bose neza agakiza abo bose wa mugwanizi atwaza amanyama kuko Imana yari kumwe nawe.
Nous avons besoin de la puissance de Dieu.
Turakenera ubwo bushobozi bw'Imana.
Et l'Esprit Saint est un esprit de puissance.
Ngo kandi muhemu w'Imana ni muhemu w'ubushobozi.
Quand le Saint-Esprit tombe sur des gens, quand l'onction de Dieu est là dans un endroit,
iyo amavuta yamanutse mu kibanza hanukana kamwe mu Imana kamanuka kubana.
Les gens sont saisis par la puissance de Dieu.
Abantu baracacigwa n'ubushobozi bw'Imana.
Nous parlerons quand Jean va avoir sa vision, il va tomber sous la puissance de Dieu.
Yohana yeretswe ibyo yeretswe ngaha yaraguye kubera ubushobozi bw'Imana.
Je vous expliquerai pourquoi les gens tombent sous la puissance de Dieu.
Zobasigurira igituma rimwe namwe abantu bagwa kubera ubushobozi bw'Imana.
Dieu est un Dieu de puissance.
Imana ni Imana y'ubushobozi.
Dieu n'est pas un Dieu qui est faible.
Si Imana y'intege nke.
Le Saint-Esprit, quand il vient dans une situation où il y a besoin de la libération d'un joug, un
joug
satanique, on a vu comme le péché, comme la maladie, comme la pauvreté, comme les présences impures, sataniques. Qu'est-ce qu'il faut pour changer cela?
La
puissance qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit. Et la vie des gens est transformée quand l'onction est présente dans un endroit. Quand l'onction est présente. Parce que l'onction de Dieu, c'est ce qui amène le changement des vies. Quand la parole est prêchée avec l'onction, quand elle est enseignée avec l'onction, alors les vies sont changées. Et c'est là où on voit les gens. Quand vous rentrez dans les églises, les gens sont. Alléluia.
Alléluia.
Où ils font beaucoup de bruit. Certains font beaucoup de bruit. Mais c'est un bruit qui respire la chair. Quand vous cherchez l'onction dans certains endroits, il vous faut un microscope électronique pour en découvrir un atome.
Là,
on a besoin que les vies soient radicalement changées. Si ta vie n'a pas été radicalement changée, ça veut dire que l'onction de Dieu n'est pas puissamment descendue sur toi. Regarde le chemin que tu as fait avec le Seigneur. Mais le Saint-Esprit est un esprit de puissance qui va amener un changement radical dans les vies. Dieu n'est pas dans le business des religions. Il est dans le business du changement radical des vies. Il va convaincre par sa puissance un pécheur de péché. Il va le faire sortir miraculeusement du royaume des ténèbres et le faire naître dans le royaume des ténèbres. Et il va radicalement transformer sa vie. Si ta vie n'a pas été radicalement transformée, demande à Dieu une révélation sur sa puissance. Ça, c'est quelque chose que tu peux chercher dans la prière. Et
prier
à Dieu, dire: Seigneur, moi je veux connaître la puissance de ta résurrection. Je veux vraiment voir ma vie radicalement transformée. Je veux que des gens qui me voient maintenant et dans, qui me verront dans 2 ou 3 ans disent: c'est plus la même personne. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, ça fait partie des facettes du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu de faiblesse. Quand on entend les chrétiens toujours dire: le diable, il est fort. Il est fort, le diable. Hein? Satan a fait ça encore dans ma vie. Rien ne pourra te résister. Si tu connais l'onction de Dieu, si tu connais la puissance de Dieu, rien ne peut te résister. Parce que quand sa puissance descend sur toi, tu es comme quelqu'un qui irait sauter sur le Kilimandjaro. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. Avec sa puissance, quand elle te réveille, la pire adversité,
elle
lui dira: ne bouge pas.
uzamubwira uti ntisinzi
dans quelques minutes.
Sinyiganyega kuko ni wowe ugira usambuke.
Parce que Dieu est un Dieu puissant.
Kuko Imana yawe, Imana yanje ni ubushobozi rabufise.
Mais pour ça, il faut que tu aies une révélation.
Ugiye umugabo urakeneye kubihishurirwa.
Beaucoup de gens ne communiquent pas avec l'Esprit.
Benshi rero ntibayaga na
mpwe. Une relation avec le Saint-Esprit est très faible.
Cyangwa babana na mpwe mu Imana mu buryo buri hasi.
Ils sont faibles.
Ils
sont faibles.
On
verra la suite la semaine prochaine sur les facettes de l'Esprit de Dieu.
Puis
nous allons entrer de plus en plus dans l'Apocalypse.
Je vais
vous montrer des trésors dans l'Apocalypse.
Des
révélations sur la parole. Que le Seigneur vous bénisse.
Passez
une excellente soirée.
Nous
espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.